Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant Jésus, le seul chemin. Nous arrivons à l'étude numéro 2 et nous pouvons donner comme titre, entre autres, l'Église catholique et le sacrement de l'Eucharistie. La Sainte Cène est le dernier souper, c'est le dernier souper que Jésus a fait avec ses apôtres la veille de sa passion. À la fin du repas, il institua le mémorial de sa mort sous les deux espèces. Le pain rompu, symbolisant son corps brisé, et la coupe, représentant son sang répandu. Les disciples observèrent fidèlement sa dernière recommandation où il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Saint Luc, chapitre 22, verset 19. Et les chrétiens de tous les temps ont suivi les instructions données dans les Saintes Écritures. Le livre des Actes des Apôtres nous fait voir l'importance que les premiers chrétiens attachaient à ce mémorial. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, je dis bien dans la fraction du pain et dans les prières. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Pour ces premiers chrétiens, rompre le pain, c'était prendre le repas du Seigneur. Selon 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 20. De ce mémorial que Jésus avait institué avant sa passion, on a glissé progressivement dans l'Église catholique vers l'établissement d'un rituel qui est devenu le moment le plus important de la messe, c'est-à-dire le sacrement de l'Eucharistie. L'article 1411 du catéchisme de l'Église catholique l'explique ainsi. Seuls les prêtres validement ordonnés peuvent présider l'Eucharistie et consacrer le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Seigneur. L'article 1413 ajoute « Par la consécration s'opère la transsubstantiation du pain et du vin dans le corps et le sang du Christ. » Sous les espèces consacrées du pain et du vin, le Christ lui-même, vivant et glorieux, est présent de manière vraie, réelle et substantielle, son corps et son sang avec son âme et sa divinité. Chers amis, pour l'instant, seuls les prêtres peuvent consacrer le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Seigneur. Ici, l'Église catholique s'approprie tout simplement un pouvoir, c'est-à-dire celui de consacrer le pain et le vin, puisque ce sont ces prêtres validement ordonnés, c'est-à-dire reconnus par elle, qui seuls peuvent présider l'Eucharistie, article 1411. Or, dans le Nouveau Testament, il n'est pas fait mention de prêtres. l'Ancien Testament avait ses sacrificateurs, la lignée d'Aaron, mais leur rôle avait été défini par Dieu lui-même dans la loi, principalement le Lévitique, donné à Moïse. Donc, ni Jésus, ni les auteurs inspirés par l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament ne parlent d'établir des hommes prêtres. Par contre, on y trouve des pasteurs dont le ministère consistait à conduire les âmes, à veiller sur le troupeau selon la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Par la consécration du pain et du vin, s'opère le changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ, notre Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang. Ce changement, l'Église catholique l'a justement et exactement appelé transsubstantiation, article 1376 du catéchisme. Cette doctrine de la transsubstantiation fut rendue officielle en 1215 par le quatrième concile de Latran, confirmée par le concile de Trente au XVIe siècle, mais ne fut pas retiré lors du récent Vatican du Concile Vatican II. Elle est toujours enseignée dans le catéchisme de l'Église catholique, édition 1992. De plus, dans les rassemblements œcuméniques, elle représente toujours un sujet de divergence, comme ce fut le cas notamment en 1979, lors de la commission mixte catholique romaine évangélique luthérienne sur le repas du Seigneur, article 53. Pour mieux comprendre jusqu'où cette doctrine a entraîné l'Église catholique, il faut d'abord la confronter au récit que font les Saintes Écritures du dernier repas du Seigneur. Voici celui que donne notre cher apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 26. Il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance. » C'est la nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, par deux fois, Jésus dit, faites-ci ceci en mémoire de moi. Ces mots indiquent sans ambiguïté le sens mémorial, que Jésus a voulu donner à ces paroles et à ce geste. De même, en précisant, cette coupe est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance, à mon sang, il montrait que désormais son sang répandu pour nous sur la croix rétablissait la relation perdue entre l'homme et son créateur et du même coup remplaçait l'ancienne alliance que Dieu avait conclue avec Israël. Ainsi, il y avait dans le geste de la fraction du pain le même sens mémorial que dans la Pâque juive. Ce n'est que tardivement que la notion de transsubstantiation sera amenée par l'Église catholique, conférant ainsi un rôle central aux prêtres dont la présence devenait indispensable pour garantir la validité de la consécration du pain et du vin. Or, nulle part dans le Nouveau Testament, on ne peut lire que Jésus a donné un pouvoir spécial à ses disciples, permettant de rendre réelle sa présence au moyen d'un rite de consécration, pas plus que les apôtres eux-mêmes auraient à leur tour transmis ce fameux pouvoir à leurs successeurs. Par contre, Jésus a laissé une parole bien réconfortante à tout homme qui choisit de le suivre comme l'ont fait ses disciples. Il est dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Saint Matthieu, chapitre 28, verset 20. Voyons maintenant la question, le culte d'adoration de l'hostie. Puisque, selon la doctrine catholique, le Seigneur accorde le don de sa présence eucharistique aussi longtemps que demeurent les espèces du pain et du vin, l'Église peut donc rendre un culte d'adoration à l'hostie en dehors de la liturgie de la messe. L'article 1378 du catéchisme romain l'exprime en ces termes. L'Église catholique a rendu et continue de rendre ce culte d'adoration qui est dû au sacrement de l'Eucharistie, non seulement durant la messe, mais aussi en dehors de sa célébration, en conservant avec le plus grand soin les hosties consacrées, en les présentant aux fidèles pour qu'ils les vénèrent avec solennité, en les portant en procession. D'autres précisions concernant ce culte de l'hostie sont données dans l'article 1418. Puisque le Christ lui-même est présent dans le sacrement de l'autel, il faut donc l'honorer d'un culte d'adoration. La visite du très saint sacrement est une preuve de gratitude, un signe d'amour et un devoir d'adoration envers le Christ notre Seigneur. À ces prescriptions émanant des responsables de l'Église catholique, on ne peut répondre que par les paroles mêmes de Jésus. Lorsque Jésus reprochait aux pharisiens d'annuler la parole de Dieu au profit de leur tradition, c'est en vain, dit-il, qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Matthieu, chapitre 15, verset 7. Ce culte de l'hostie, présence dans le tabernacle ou adoration devant l'ostensoir, ne repose sur aucun fondement biblique. De plus, ce culte et la pompe liturgique dont il est souvent entouré représente un réel danger pour tous ceux qui le pratiquent parce qu'il revêt un caractère de pratique magique, occulte, car l'hostie consacrée devant contenir en elle-même carrément la présence réelle du Christ. Ça, c'est trahir Jésus que de faire croire aux membres d'une église qu'un homme, prêtre ou évêque, détient de l'Esprit Saint le pouvoir de faire rendre présent, Jésus-Christ dans une hostie en accomplissant des rites de consécration. En conclusion, souvenons-nous de ce que Jésus a dit à la Samaritaine dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, verset 23. Il a dit « L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Je répète, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nous devons donc nous approcher de Dieu, non pas au moyen de rites religieux inventés par des hommes, mais par Jésus notre bien-aimé Sauveur, comme nous le rappelle cet extrait de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22, où il est dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. » Voyons maintenant le culte à la Vierge Marie. Il n'y a aucune trace de culte à Marie dans le Nouveau Testament. Ce culte commence à prendre de l'importance à partir du 5e siècle, puis se développera pendant tout le Moyen Âge pour atteindre finalement son apogée au 19e et 21e siècle en raison des apparitions et des miracles. Or, le développement de ce culte à Marie a amené l'Église catholique à proclamer deux dogmes importants. Premièrement, l'Immaculée Conception. Au long des siècles, l'Église a pris conscience que Marie, comblée de grâce par Dieu, Saint Luc chapitre 1 verset 28, avait été rachetée dès sa conception. C'est ce que confesse le dogme de l'Immaculée Conception, proclamé en 1854 par le pape Pie IX. La Bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure du péché originel, Catéchisme catholique, article 491. Et deuxièmement, nous avons l'Assomption, la Vierge Immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme, à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme étant la reine de l'univers. Catéchisme catholique, article 966. Le dogme de l'Assomption fut proclamé par le pape Pie XII en novembre 1950. Enfin, selon le Concile Vatican II, l'Église invoque la Bienheureuse Vierge Marie sous les titres d'avocate, de secours, d'auxiliatrice, de médiatrice. Constitution dogmatique Lumen Gentium, chapitre 7. Je le redis encore une fois, Constitution dogmatique Lumen Gentium, chapitre 7. Mais voyons maintenant Marie dans l'Évangile. Jésus et les auteurs inspirés du Nouveau Testament sont-ils à l'origine de ces croyances de l'Église catholique sur ce rôle de médiatrice attribué à la Vierge? Or, les quatre évangiles restent finalement très discrets sur Marie. En tout cas, pas une seule fois, Jésus n'a exalté publiquement sa mère comme étant supérieure aux autres. Ainsi, saint Matthieu rapporte, « Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors. Ils cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui sont ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Saint Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Luc, de son côté, dit ceci. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la sainte parole de Dieu et qui la gardent. » Saint Luc chapitre 11, versets 27 et 28. Heureux donc le saint qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Ces paroles prononcées par la femme qui écoutait Jésus parler sont proches, très proches du lyrisme de nombreux cantiques chantés en l'honneur de Marie. Cependant, Jésus coupe très court à cette belle envolée lyrique et nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire heureux plutôt ceux qui écoutent la sainte parole de Dieu et qui la gardent. Le Nouveau Testament n'enseigne pas non plus comment, comme le fait le catéchisme romain, article 969, par son intercession répétée, elle, Marie, continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Or, le seul don qui nous assure le salut éternel, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, répandu par le rachat des péchés des hommes. C'est uniquement en acceptant de nous repentir et en croyant à la sainte parole de Jésus que nous pouvons connaître la vie avec Dieu. Il n'est donc pas nécessaire d'y ajouter des prières à Marie, comme l'enseigne l'Église catholique. De toute façon, l'apôtre Paul affirme solennellement que Jésus est le seul médiateur, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est qui ? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. Oui, chers amis, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons ou nous devions être sauvés. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans Actes, chapitre 4, verset 12. Chers amis, la prière à Marie, c'est un enseignement de l'Église catholique. Elle comprend, premièrement, deux parties tirées de l'Évangile de Luc, où il est dit « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », citation de Saint Luc, chapitre 1, verset 28. Or, dans mes Bibles allemandes, Luc, chapitre 1, verset 28, si je traduis, c'est dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Die Zürcher Bibel und die Lutherische Bibel und so weiter. » Donc, bon, on ne veut pas chicaner. Et vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Citation de Saint Luc, chapitre 1, verset 42. Deuxièmement, un ajout catholique du 15e siècle, Sainte Mère, Sainte Marie, ça a été ajouté donc par les catholiques au 15e siècle. Alors ils ont ajouté Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Ils ont ajouté « Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Mère de Dieu, le titre « Mère de Dieu » selon le Concile d'Éphèse en 431, pour invoquer Marie, cela n'est pas justifié parce que Marie était une simple créature de Dieu, même si elle a connu le merveilleux privilège de mettre au monde Jésus, fils de Dieu, Cette expression n'honore pas non plus Marie, qui elle-même se disait être en toute humilité. Elle a dit « Je suis que la servante du Seigneur » Saint Luc chapitre 1 verset 38. Et elle considérait Dieu comme son sauveur. Saint Luc chapitre 1 verset 47. Et mon esprit s'est réjoui en Dieu, mon sauveur. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Certainement, tout homme est pécheur, évidemment. Mais si nous, nous sommes repentis, nous avons reçu le pardon de Dieu, me semble-t-il, et la vie dans l'Esprit Saint, pourquoi alors demander à Marie d'intercéder en notre faveur? Croyons-nous, oui ou non, à cette promesse que Jésus nous a faite? En vérité, je vous le dis, a-t-il dit, que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Elle a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il ou elle est passé de la mort à la vie. Saint Jean, chapitre 5, verset 24. Il y a donc plus besoin de dire « Priez pour nous, pauvres pécheurs, etc. » En réalité, Jésus nous a laissé un bel enseignement sur la prière. Relisons Saint Matthieu, chapitre 6, verset 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si cela était vraiment la volonté de Dieu, que nous adressions des prières à Marie, Jésus nous l'aurait recommandé. À la rigueur, les apôtres parlent sous l'inspiration de l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament et ils nous l'auraient également indiqué. Or, il n'en est rien. De plus, on sait très bien que les prières et les cultes à Marie ne furent pratiqués dans l'Église que tardivement. Le chapelet et le rosaire. Eh bien, dans Saint Matthieu, chapitre 6, versets 7 et 8, nous pouvons lire « En priant, c'est Jésus qui parle. » C'est Jésus qui nous parle. Il dit « Ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait très bien de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. » Il s'agit là d'une recommandation de Jésus pour nos prières. Jésus précise bien, ne multipliez pas de vaines paroles. Réciter un chapelet consiste à répéter 50 fois la prière à Marie et un rosaire, 150 fois cette prière. Espérons que cette tradition n'existe plus. Au 19e et 21e siècle, les apparitions de la Vierge se sont multipliées, confortant ainsi l'Église catholique dans sa pratique des cultes à Marie. Les lieux de pèlerinage sont très nombreux et l'Église ponctue l'année liturgique par de nombreuses fêtes miracles telles que l'Immaculée Conception, l'Annonciation et l'Assomption. Durant certaines apparitions, la Vierge a délivré des messages qui sont de véritables révélations pour l'Église de notre temps. On ne peut malheureusement pas du tout accepter ces révélations, parce que, voyez-vous, Jésus a lui-même donné ses propres révélations sur les derniers temps. De vive voix, comme dans tout le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, sur l'annonce de la fin des temps, par exemple, ou par l'Esprit Saint, dans les autres écrits du Nouveau Testament, et en particulier dans l'Apocalypse de Saint Jean. Le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, dit Offenbarung, est à ce sujet extrêmement précis et même sévère à l'égard de l'attitude face à la révélation divine, ainsi qu'on peut le lire au verset 18 et 19. Je le déclare, c'est Jésus qui parle. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Il n'est donc pas possible d'ajouter une autre révélation à celle de notre Seigneur. Comment alors expliquer ces incontestables phénomènes d'apparition et de miracles? Eh bien, là encore, seul Jésus peut nous donner la réponse, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, dit-il. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point même de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance, Saint Matthieu 24, versets 24 et 25. Dans le discours de la fin des temps, cité de plus, l'apôtre Paul affirme aussi, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14, que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il nous faut donc, concernant le domaine des apparitions et des miracles, agir avec la plus grande circonspection. Mais nous ne pourrons jamais nous égarer si nous écoutons et si nous suivons notre Sauveur Jésus, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, ajoute-t-il. Saint Jean 14, verset 6. tout chrétien respecte l'enseignement de la Bible au sujet de Marie et considère cette dernière à sa juste place. Par la grâce de Dieu, elle était vierge jusqu'à la naissance de Jésus, qui a été conçu miraculeusement par l'Esprit Saint, ainsi que l'atteste Saint Matthieu chapitre 1 verset 25. Mais il, Joseph, ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Après l'Ascension, on la trouve, écoutez bien, on la trouve, Marie, en compagnie des apôtres pour prier. Tous, d'un commun accord, persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, et avec les frères de Jésus. Actes chapitre 1, verset 14. Les frères de Jésus ne sont quand même pas venus au monde par hasard, me semble-t-il. Enfin, pour comprendre le chemin parcouru par l'Église depuis le jour de la Pentecôte au premier siècle jusqu'à la proclamation par le Concile Vatican I en 1870, du dogme de l'infaillibilité du pape, un rapide survol de l'histoire de l'Église est nécessaire. Nous avons le début de l'Église, période de fidélité à Jésus et à sa sainte parole. Jésus construit son Église et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, verset 47. Les trois premiers siècles du christianisme se présentent principalement comme étant une période de lutte. L'Église doit faire face aux persécutions et aux premières hérésies. Pendant cette période, le Seigneur a merveilleusement manifesté sa présence au milieu des siens. L'Église de Rome est fondée et constituée par les deux très glorieux apôtres Pierre et Paul selon Irénée. La domination de Rome toujours plus puissante. Le personnage du pape prend de plus en plus l'importance et on mêle la tradition à la parole de Dieu. Jésus avait connu la même situation en son temps face aux docteurs d'Israël et à leur tradition. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Saint Matthieu chapitre 23 verset 2. Et ensuite il est dit, vous annulez la sainte parole de Dieu au profit de votre tradition. Matthieu 15 verset 6. Jusqu'en 313, l'Église se composait d'adhérents librement convaincus avec l'empereur Constantin le Grand. À partir de 313, le christianisme est reconnu dans tout l'Empire romain et l'Église se développe rapidement et elle devient progressivement une Église de multitude. Au 5e siècle encore, on reconnaît l'autorité apostolique de plusieurs églises, Jérusalem, Antioche, Alexandrie, Rome et Constantinople. Cependant, l'autorité du patriarche de Rome est de plus en plus reconnue par les autres. Les évêques de Rome revendiquent la succession de l'apôtre Pierre, et ils se font appeler pape, père, en référence à l'évangile de saint Matthieu, chapitre 16, versets 18 et 19, où il est dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, je te donnerai la clé du royaume des cieux. » Donc, progressivement, se met en place une église catholique que nous connaissons bien au XXIe siècle maintenant. D'un côté, nous avons une structure cléricale qui ira en se hiérarchisant de plus en plus, avec à sa tête le commandement suprême du pape à Rome. D'un autre côté, la multitude des fidèles ou laïcs qui se composera d'adhérents, pour la plupart baptisés enfants, et dont beaucoup seront très peu instruits de l'Évangile. Pendant tout le Moyen Âge, la puissance de l'Église catholique et de l'autorité papale vont se développer considérablement, et toute la vie politique, artistique, littéraire, intellectuelle gravite donc autour de l'Église romaine et de son représentant, le pape. Parallèlement, l'Église va s'écarter de plus en plus de la sainte parole de Dieu en laissant se développer des fausses doctrines telles que la transsubstantiation, le purgatoire, les indulgences, le culte des saints et à Marie. Les fidèles ignorent la Bible et les cultes en latin réduisent, et bien entendu, leur participation à la prière, et la superstition se développe. La puissance papale atteindra son apogée avec l'Inquisition, c'est le tribunal de l'Église pour la détection et pour la punition des hérétiques. On va donc vers l'infaillibilité de l'Église catholique, tout simplement. Rome et sa puissance sont confrontés à la sainte parole de Dieu par les partisans d'un retour aux sources de l'Évangile. Jésus a mis en garde par son esprit dans l'Apocalypse ceux qui se détourneraient de lui. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Apocalypse 2, verset 16. Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Je répète, nulle créature n'est cachée devant lui, devant Dieu. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13. Pour terminer cette deuxième étude, nous constatons que les abus et les libertés que prend l'Église catholique par rapport à l'Évangile vont conduire durant les siècles suivants à une succession de réactions en chaîne. Luther et la réforme protestante veulent ramener l'Église catholique à l'Évangile. Celle-ci riposte avec le Concile de Trente, par lequel elle maintient sa position doctrinale et interdit carrément la lecture de la Sainte Bible en langue vulgaire sans autorisation spéciale. Les partisans du retour à l'Évangile susciteront alors de nombreux mouvements de réveil et seront à l'origine d'une diffusion de plus en plus importante de la Sainte Bible en dehors de l'Église catholique. Et finalement, en 1870, la déclaration de l'infaillibilité papale au Concile Vatican I enlèvera tout espoir de voir l'Église catholique revenir à l'Évangile en renonçant à ses doctrines. Et lors du Concile Vatican II, celle-ci ne reniera malheureusement pas, jamais plus, les positions doctrinales des conciles de Trente et Vatican I. Amen. Chers amis, pardon, nous allons prier ensemble et j'aimerais vous dire une strophe d'un très ancien cantique et après la prière j'essayerai de vous mettre quelques chants d'un assez lointain passé, 1965. En ce temps-là, il n'y avait pas de CD. Voici la strophe de ce cantique. Ô Seigneur, Maître suprême, et de la terre et des cieux, ô toi qui veux que je t'aime afin que je sois heureux, ô Jésus, ô roi de gloire, prosterné devant ta croix, je veux bénir ta victoire et suivre partout ta voie. Sur tes pas, régler ma route, aller partout où tu vas, imposer silence aux doutes et m'appuyant sur ton bras, jusqu'au bout de ma carrière, vaincre le mal chaque jour. Voilà, Seigneur, ma prière qu'exaucera ton amour. Prions. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, de ce que tu nous as amenés en paix durant cette journée. Elle a été remplie de tes bienfaits. Et nous, Seigneur, qu'avons-nous fait pour toi? Qu'avons-nous fait pour glorifier ton saint nom et pour rendre témoignage à l'amour de notre Sauveur? Quelle pensée solennelle que celle des journées qui s'écoulent ainsi, de ces heures qui nous échappent et dont nous ne retrouverons pas un instant, et combien elles seraient faites pour nous troubler si nous ne pouvions sans cesse nous approcher de toi par Jésus-Christ. Enseigne-nous, Seigneur, à régler notre temps et l'emploi de nos journées, que chaque jour notre première pensée soit de nous mettre en ta présence, afin que tu nous montres toi-même ce que nous devons faire, qu'à ton exemple, ô Jésus, nous allions de lieu en lieu en faisant le bien et qu'il nous soit donné dans l'humilité qui convient à de pauvres pécheurs rachetés par pure grâce de faire luire notre lumière devant les hommes à la gloire de Dieu et de répandre autour de nous la bonne odeur de Christ. Ô notre Dieu, bénis-nous ainsi, que tous tes enfants se soutiennent et s'encouragent dans le bien et que l'amour du Sauveur crucifié unisse tous ceux qui se réclament de lui et s'est appuyé sur lui que nous nous présentons devant toi. Amen. Amen. Et maintenant, j'essaie de vous mettre ces chants d'un assez lointain passé.
Toutes ces splendeurs, le pays préparé pour les élus.